Radio Alliance Plus. Parole aux associations.
Et maintenant, on va à la rencontre de Pietro. Et Pietro est le président de la table ouverte.
C'est bien cela.
Bonjour Pietro.
Bonjour.
Alors, vous vous êtes étendu, dites donc. Bon, on a connu la table ouverte de Richelieu. Maintenant, c'est une vraie holding ici.
Non, quand même pas. Malheureusement, notre extension correspond aussi à l'augmentation de la pauvreté, de la précarité sur Nîmes.
C'est sûr.
C'est malheureux.
C'est préoccupant.
Puisque, bon, faut le rappeler, il faut quand même ne pas perdre de vue. Et notre évolution colle aussi à cela. C'est que Nîmes donc compte 32% de taux de pauvreté, c'est-à-dire ça représente quand même 43 000 personnes qui gagnent donc moins de 1100 euros par mois. Alors, il y en a qui sont encore beaucoup plus bas. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, les personnes qui viennent donc à l'épicerie que vous avez vue tout à l'heure, nous avons 468 familles qui sont inscrites. Donc, pour pouvoir bénéficier donc de l'épicerie, où on peut acheter donc à 30% de la valeur donc les marchandises, nous calculons le reste à vivre des personnes. Donc, on calcule leurs revenus et leurs charges. Et la moyenne donc de ces 468 familles, elle est de 5 euros de reste à vivre par jour et par personne. Vous voyez, donc
et pour le mois.
C'est un exemple. Non, par
jour.
Sur le mois, oui, tout à fait.
Sur le mois.
On divise donc le revenu mensuel avec. On soustrait les charges et on divise par 30 et ça nous donne donc le reste à vivre
journalier.
Voilà, et il est de 5 euros en moyenne donc pour toutes ces familles.
Ah oui, alors effectivement, ils ont besoin d'une aide alimentaire.
Pour pouvoir
survivre, je dirais même.
Oui, tout à fait, parce que bon, le budget alimentaire, depuis le Covid, a explosé, puisqu'il y a eu une très grosse inflation tout de suite après le Covid. Les produits alimentaires ont beaucoup augmenté. Et tout le monde le dit, tout le monde l'a constaté, même ceux qui ne sont pas dans la précarité ont pu constater quand ils remplissaient leur caddie que bon, la somme avait nettement augmenté et qu'on n'avait plus la même quantité de produits. Bon, alors les produits se sont un petit peu stabilisés cette dernière année, mais bon, l'augmentation elle est toujours là, quoi. Donc les revenus des foyers, des ménages, n'a pas suivi autant l'augmentation. Donc voilà, c'est un réel problème. Bon, on est arrivé à récupérer des gens qui étaient endettés au niveau de leur loyer. Enfin, on passe des accords donc avec les bailleurs sociaux pour leur permettre justement de venir à l'épicerie. Ça leur permet comme ça d'économiser sur leur budget alimentation et ça leur permet d'éviter donc d'agrandir donc la dette de loyer. Ça leur permet de rembourser un petit peu également, tout doucement. Et ça évite aussi des expulsions, comme c'était le cas l'année dernière. On a rattrapé une famille, deux enfants qui allaient être expulsés par Habitat du Gard et nous sommes arrivés à faire un accord pour pouvoir donc leur faire bénéficier de l'épicerie et en contrepartie ça leur permettait de payer un petit peu donc leur dette. Voilà.
Alors
nous sommes malheureusement dans tous ces problèmes tous les jours, je dirais parce que c'est notre quotidien malheureusement.
Alors vous évoquiez le taux de 32% de pauvreté dans le Nîmes, mais c'est le taux du Gard, c'est pas 15%, c'est ça?
On est à 20% dans le Gard.
20%, d'accord.
Ouais, 20%.
Et on fait partie malheureusement du top.
Oui,
des 5 départements,
les
plus pauvres de France.
Tout à fait.
Bon. Et parmi ces 32%, donc, la population est encore plus pauvre intramuros dans Nîmes,
c'est ça, ouais.
Et c'est ces personnes-là que vous accueillez.
Tout à fait. Alors, nous avons restructuré un petit peu le fonctionnement de notre association, parce qu'avant, c'est vrai, comme vous disiez, on faisait pas trop de bruit, on était dans nos murs, qui nous sont d'ailleurs mis à disposition par le diocèse de Nîmes. Il est utile de le rappeler chaque fois, c'est grâce à notre fondatrice Odile Lassmann, qui a passé cet accord donc, avec l'évêque de l'époque, c'était deux ans après les inondations, en
88.
Les inondations étaient en 88. Deux ans après, en discutant avec l'évêque de l'époque, il s'est rappelé donc qu'il y avait cette maison qui avait été inondée, il y avait 2,50 m d'eau dans la rue Richelieu, et il a accepté donc de nous mettre à notre disposition, à titre gracieux, donc cette maison qui depuis, on l'a entretenue, l'a réparée.
C'est la maison fondatrice, en fait.
Voilà, tout à fait.
Et tout le monde la connaît, en tout cas dans le quartier.
Oui, alors on a un rayonnement sur le quartier qui est important, puisque maintenant, en plus, voilà, en plus de... de l'aide alimentaire. Nous essayons également d'organiser des activités socioculturelles, comme la fête
alors
du quartier.
Alors, on va en parler tout à l'heure, mais justement, pour terminer sur l'aide alimentaire, vous approvisionnez où, alors, en fait ?
Alors, nous sommes adhérents à la Banque Alimentaire.
Ah, c'est ça, la Banque Alimentaire.
Alors, Banque Alimentaire aussi, dont Odile Asman a été l'une des fondatrices également.
D'accord.
Qui s'est créée à peu près à la même époque que la Table Ouverte, hein, puisque on s'en rappelle plus maintenant avec le recul, il y a 40 ans, tout cela.
C'est vrai.
Mais il y a 40 ans, il n'y avait pas de RMI, il n'y avait pas de RSA, et il y avait une situation de pauvreté également importante donc, dans ces années-là. C'est pour ça que le RMI a été créé, pour qu'il y ait un filet, comme on dit, minimum, donc pour que les gens aient un minimum de revenus. Et à cette époque, donc, il y a eu Coluche qui a monté les Restos du Cœur. Beaucoup d'associations d'aide alimentaire se sont fédérées pour monter les banques alimentaires. Et c'est vrai que c'est une organisation importante, mais dans toute la France, hein, on a, dans tous les départements, il y a une organisation de banque alimentaire. Ici, dans le Gard, la banque alimentaire sert une centaine d'associations réparties dans tout le Gard. Et sur Nîmes, nous sommes une des plus importantes associations qui travaille donc avec la banque alimentaire. Et c'est grâce à eux que nous avons donc 80% de nos produits proviennent de la banque alimentaire.
Alors justement, on connaît donc l'épicerie solidaire maintenant, la Table Ouverte rue de Richelieu, mais vous avez maintenant ouvert votre association à d'autres activités. Alors déjà, avant de parler de toutes ces activités, vous êtes implanté sous les arcades de la SNCF.
Tout à fait.
Alors vous avez passé une convention, ça, parce que j'ai cru comprendre, vous avez 1800 m², c'est énorme.
Exactement. Bon, c'est un peu le... comment dire... c'est pas le hasard, parce que bon, on a réussi à se rencontrer.
Vous avez un partenariat déjà.
Oui, on n'avait pas de partenariat, mais
vous avez eu œuvré.
Entre guillemets, j'ai harcelé les services de la SNCF, parce que bon.
Parce que ces locaux étaient vides.
C'était vide.
Et en plus, quand on passe vous voir, ça va beau, c'est pas très chouette.
Oui, c'est vrai. Alors, comme tout Nîmois, je passais souvent donc sur le boulevard Talabo, et je me désolais de voir toutes ces arches abandonnées où il y avait avant des commerces. Il y avait des activités d'artisans, de petits commerces, tout à fait, il y avait plein de choses. Et tout était abandonné. Et donc l'idée de départ, je les ai contactés, la SNCF, donc, pour avoir une arche pour du stockage. Parce qu'en Richelieu, on n'avait pas beaucoup de locaux donc, pour pouvoir stocker nos produits. Et puis de fil en aiguille, de discussion en discussion, de rencontre en rencontre, grâce aussi à l'appui, il faut le signaler quand même, du sous-préfet chargé de la politique de la ville, M. Mathias Niepce, nous avons organisé une rencontre donc, avec la direction de SNCF Immobilier.
Régional
régional, leur siège est à Marseille. Donc on a fait déplacer la directrice qui est venue. Et,
carrément.
On est parti de la gare à pied et on a remonté toutes les arches là, jusqu'à
l'angle. Il y en a qui vous ont intéressé.
Et elle me disait en marchant, voilà, il y a celle-ci, il y a celle-là. Et puis, j'avais repéré, bien sûr, que celle qui nous intéressait était ici, à l'angle de la rue de Beaucaire. Et donc, arrivé à cet angle, elle nous a dit, alors lesquelles vous intéressent ? Le commerce où il y avait une pizzeria, donc, dans laquelle est installée maintenant l'épicerie solidaire. Je lui dis, celui-ci nous intéresse. Alors, elle nous dit, écoutez, prenez les quatre. Alors je lui dis, oui, pourquoi pas. Alors, mes collègues qui étaient avec moi, parce qu'on était un certain nombre à présent, me regardaient en me disant, on était venus pour une, on se retrouvait avec quatre. Et puis, en remontant le boulevard Talabo, elle nous dit, mais derrière, à l'angle de la rue Maffei, il y a aussi une cour là-bas derrière. Alors, je lui dis, elle me dit, vous voulez la voir ? Je lui dis, pourquoi pas. On passe donc dans la cour derrière, et on se retrouve donc devant une cour énorme avec cinq arches qui donnent donc dans la cour. Et elle nous dit, si vous voulez, prenez tout le lot.
Avec un accès véhicule.
Oui, un accès véhicule, bien sûr. Oui. Donc, je dis, il faut qu'on réfléchisse quand même. Je vais en parler à mon conseil d'administration. Je ne peux pas prendre la décision comme ça à quelques-uns qu'on était là. Et le lendemain, on a pris la décision donc de prendre toutes ces arches. Et petit à petit, donc, nous les rénovons. Donc, on en a rénové quatre. Hein. Donc, il y a l'épicerie, la salle d'exposition Frida Kahlo, la ressourcerie dans laquelle nous sommes, et puis la friperie. Et puis là, maintenant, on s'est attaqué donc aux autres arches qui sont derrière, qui donnent dans la cour, où nous comptons donc installer un jardin pédagogique avec une association qui s'appelle Semeur de Jardin, où il va y avoir donc une animation autour du jardinage, de l'écologie, de l'environnement. On va planter des arbres dans la cour, parce que c'est une friche, hein, il n'y avait plus rien dedans. On va planter des arbres fruitiers.
D'accord.
Et dans l'autre moitié de la cour, il y aura un atelier de petites réparations. association vélo, avec l'association Croco Vélo, qui va faire des diagnostics, conseiller aux gens et faire des animations autour du vélo. Et on compte organiser donc des petites balades sur les pistes cyclables de la ville, puisque nous avons bénéficié donc d'un lot de vélos Tango, qui sont les anciens vélos qui étaient de la ville. Et dans la dernière partie, donc la dernière arche, nous comptons ouvrir d'ici la fin de l'année un café associatif avec des animations socioculturelles pendant les beaux jours, donc printemps et été.
Eh ben dites donc, vous avez plein de projets. Et tout ça gratuitement, mis à disposition?
Alors,
ou pas?
La SNCF nous l'a mis à disposition, nous payons quand même la taxe foncière.
Oui. Ouais.
Et voilà, c'est une œuvre donc, à
c'est
laquelle
un don,
la SNCF voulait participer, parce qu'elle le fait dans d'autres villes, hein, elle participe à des activités de solidarité. Nous sommes d'ailleurs sur leur site, nous sommes mis en avant. Voilà, la SNCF est fière aussi de participer à des activités comme celle-là.
Oui, et puis c'est une manière de mettre un peu en valeur le coin, parce que ces arcs, comme vous le disiez tout à l'heure, ces arcs étaient vraiment moches. Ouais. Et quand nos auditeurs ne le voient pas, mais nous nous sommes rendus compte que c'est très coloré. Hein,
voilà, on a voulu donner beaucoup de couleurs. Parce qu'en plus, on voulait justement prendre le contre-pied de l'image qu'on a souvent, et de l'idée qu'on a souvent dans la tête, que les points de distribution ou les épiceries sont souvent dans des arrière-cours, les gens se cachent pour y venir. Voilà. Nous, on a voulu au contraire être sur le boulevard. Les gens viennent dans une épicerie qui ressemble à une petite supérette. Hein, il y a un accueil café. Voilà. On voulait aussi combattre l'idée, faire reculer aussi l'idée qui est quelquefois chez les gens qui sont dans la précarité de la honte
de pas quémander
de
proposer autre chose.
Du coup, chez nous, ils viennent faire leurs courses et non pas tendre la main pour demander une aide. Voilà, c'est vraiment important pour nous aussi de casser ce préjugé, parce que les gens qui sont démunis sont vraiment dans la double peine, quoi. À la fois, ils sont vraiment dans la tête sous l'eau, et en même temps, ils ont honte de le dire et honte de venir se faire voir, quoi. Voilà, donc nous, on a voulu casser ça. Et je trouve que ça marche très bien, les gens sont vraiment très contents et on arrive à faire vraiment beaucoup d'heureux.
Maintenant, habituellement dans notre émission, on fait une petite pause musicale. Est-ce que vous avez là, à brûle pour point, vous avez un morceau musical que vous souhaiteriez passer, une chanson qui fera appel à la solidarité ou...
Oui.
Alors dites-nous.
Tout de suite,
sans réfléchir. C'est vrai qu'on vous prend un peu à brûle pour point.
Sans réfléchir, je vais vous dire Manu Chao, Clandestino.
Voilà. D'accord.
Alors, pour deux raisons. Parce que d'abord, je suis un grand fan de Manu Chao, mais aussi parce qu'il faut le rappeler, Manu Chao nous a aidés avec sa fondation. Il a été le premier à nous aider financièrement donc pour faire les travaux, pour démarrer l'épicerie. Ouais, tout à fait.
Bon, on écoute cette chanson et on se
Clandestino, en plus, ça fait référence donc aux migrants, aux personnes qui justement traversent les frontières et ne sont pas toujours respectées, ne sont pas toujours reconnues. Et c'est une chanson qui date de quelques années déjà, mais qui est toujours d'actualité, quoi.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Et alors justement, on va parler des différents services que proposez, différents lieux. Nous nous trouvons là dans la brocante, ça s'appelle la recyclerie,
oui,
c'est ça ?
Oui, recyclerie, oui.
Alors, c'est quoi ? On est entouré, on a l'impression d'être... Alors, on va chiner, on a l'impression qu'on est...
Tout à fait, ça fait une boutique d'antiquaire.
Chez un antiquaire.
Oui. Alors là, on va d'ailleurs l'agrandir, parce qu'on est en train de faire des travaux derrière, donc ça va... On va prendre toute la surface de l'arche. C'est des dons que nous font donc les
habitants. D'objets anciens, c'est ça ?
Il y a de tout. Bon, des objets de famille. Bon, souvent, les gens vident leur grenier, comme on dit.
Alors, c'est ouvert à tous ? Comment
c'est ouvert à tous. Alors, la friperie et la roussosserie est ouvert à tous. Ça nous fait gagner un petit peu d'argent pour pouvoir financer donc, l'épicerie, qui, elle, est déficitaire, puisque nous vendons...
Vous voyez comment on est en direct. Vous entendez les bruits du train au-dessus de nous.
Ça mais tient bon, bien hein, quand même.
Ça hein. Tient bien.
Oui, oui. Les arches sont classées au patrimoine. Hein,
ah oui,
elles sont de 1850. Non. 1850. Oui. Et,
d'accord. Et donc 1860.
Ouais, d'accord.
Donc vous avez ouvré les portes pour le journée du patrimoine, donc quand même pas.
Non, non, non. Alors, quand je dis patrimoine, c'est pas le patrimoine
national,
culturel.
Culturel, oui.
Ah oui. C'est classé dans le patrimoine parce que c'est des œuvres d'art,
oui.
Des ouvrages d'art
de
qui sont
oui.
Référencés et qui ont passé toutes ces années et qui servent encore beaucoup là pour que les trains arrivent dans la gare de Nîmes.
Alors parlons maintenant de l'autre espace qui est assez intéressant, l'espace culturel. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu en faire de cet espace ? C'est aussi c'est ouvert à tous aussi aux personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire.
Il n'y a que l'épicerie donc qui est ouverte uniquement sur dossier puisqu'on demande aux gens donc de nous fournir leurs revenus et leurs charges. Tout le reste des activités que nous aurons sous les arches sont ouvertes à tous. Alors, parce qu'on voulait justement aussi qu'il y ait une mixité. Le lieu n'est pas réservé qu'aux personnes démunies. On veut que voilà, il y ait des mélanges, qu'il y ait des croisements, qu'il y ait des gens qui se rencontrent. Bon, alors c'est déjà le cas avec notre salle d'exposition. On essaye donc de... on ne veut pas faire de l'élitisme, hein. On veut faire voir... Alors, on a déjà fait une exposition de photos. On a fait une expo d'un photographe nîmois. On a fait une exposition sur les enfants de Gaza, on a fait une exposition d'un peintre gardois, Christian Astor. Là prochainement, on va faire une exposition sur des photos d'Afrique, de Casamance, puisque chaque année, nous avons un pays invité à l'épicerie. L'année dernière, c'était la Palestine, cette année, c'est le Sénégal. Donc il va y avoir tout le long de l'année des animations sur le thème
du
Sénégal.
Donc c'est une espèce de galerie.
Oui,
galerie
tout à fait.
De peinture, c'est ça. mais pas que. Vous avez aussi.
Pas que, puisqu'on va y faire des lotos, on va y faire des réunions, on va y faire des petits concerts.
Mais pas de théâtre ou de pièces, non ?
Si.
Il y avait une scène.
Également, oui.
D'accord.
On l'a terminé, la salle a été terminée il y a 15 jours. Hein, on a présenté nos vœux juste la veille qu'on a terminé les travaux. Et le but de cette salle, donc, alors, à la fois une salle d'exposition sous l'arche, et puis l'extension, puisqu'il y a une salle qui agrandit donc l'arche, va nous permettre donc de faire des réunions, des conférences, des projections de films, bon, puisqu'on peut mettre 150 personnes entre les deux salles. Quoi.
Ah, quand même ?
Oui, elle est grande. Hein.
Oui, c'est vrai, on est passé tout à l'heure dedans. Et au niveau de... Alors, plus loin, c'est la friperie. On en a parlé un peu tout à l'heure. Et puis après, la recyclerie... Non,
les jardins.
Les jardins. Ça sera dans la cour. C'est pas visible du boulevard.
Non. Alors, il faudra faire le tour de l'autre côté. Alors, on compte ouvrir la 9e arche, qui est sur le boulevard. Il y a actuellement un portail en bois. On compte donc le rénover et faire une entrée qui sera visible donc, du boulevard et qui permettra donc aux personnes de rentrer dans la cour.
D'accord. Et tout ça, c'était un peu sous votre égide, parce que Si je comprends bien la table ouverte, vous êtes arrivé quand
Alors moi, ça fait 8 ans maintenant que je suis bénévole.
8 ans ouais. D'accord, bénévole. Enfin, bénévole. Et en tant que président?
En tant que président, ça fait 3 ans maintenant.
3 ans. Ah, déjà 3 ans?
Oui, déjà.
et c'est vous qui avez donné cette nouvelle impulsion, puisque, si je comprends bien, il n'y avait que la table ouverte avant, c'est ça?
Oui, alors avant, on se cantonnait donc à la rue Richelieu, la rue Richelieu. À la maison de la rue, au 44 rue Richelieu. Nous avons également ouvert un lieu d'accueil parents-enfants qui se trouve rue Villard, où on accueille donc les familles et où on fait un travail sur la parentalité. C'est-à-dire, on n'est pas un centre de loisirs, on essaie d'organiser des activités parents et enfants. Le but, c'est d'apprendre aussi aux parents, hein, entre guillemets, hein, c'est pas une école, c'est organisé en commun, de faire des activités avec les enfants. Voilà, on va au théâtre, on va au cinéma, on va faire des balades, on a des lectures, on a des contes, des choses comme ça. Et tout ça donc permet aux parents de mieux éduquer leurs enfants. Quoi.
Alors c'est vrai qu'on fait des enfants, mais il n'y a pas de formation pour élever les enfants.
Oui, c'est vrai.
Alors c'est une bonne idée.
Tout à fait. Bon, on n'a rien inventé là aussi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'école. C'est vrai
il n'y a pas d'école.
Chacun reproduit un petit peu ce qu'il a vécu. C'est souvent le cas. Et là, ça permet comme ça, de permettre aux parents de mieux régler les problèmes qu'ils peuvent avoir quelquefois avec les enfants, parce que quelquefois il y a des parents qui sont vraiment perdus, qui sont désemparés, et ça nous permet comme ça de vivre mieux ensemble. En plus, c'est des gens de différentes nationalités, on a vraiment un brassage qui est très, très intéressant, et ça permet des rencontres, ça permet des liens, on fait de la cuisine aussi ensemble, il y a beaucoup de petites activités comme ça.
Alors dites donc, monsieur Pietro, vous avez des idées expansionnistes encore comme ça, ou vous allez vous arrêter et faire une pause?
Là on va terminer les arches, hein.
Voilà.
On va terminer les arches, c'est déjà un gros chantier, mais c'est vrai qu'on a encore sous le coude quelques idées.
Vous n'arrêtez pas?
Pourquoi s'arrêter? Je veux dire, on a la chance, c'est vrai que c'est extraordinaire pour nous. On existe depuis 40 ans, comme je vous le disais. C'est aussi dû à l'équipe de bénévoles extraordinaires qui ont disparu aujourd'hui ou ont déménagé. Mais Table Ouverte a traversé toutes ces années, tous ces 40 ans, grâce à cette équipe extraordinaire qui a été menée pendant plusieurs années par Audi Lassmann, dont nous allons fêter sa mémoire ce samedi, puisque ce samedi nous inaugurons donc le square Audi Lassmann avec la municipalité de Nîmes. Il se situe à l'intersection de la rue de Beaucaire et la rue Pierre-Semard. C'est un petit square avec des oliviers, avec des bancs, voilà. Et samedi matin, donc, nous allons l'inaugurer avec monsieur le maire et la famille d'Audi Lassmann. Donc, je vous disais, on a traversé toutes ces années grâce à cette équipe très soudée, très motivée, très dévouée, qui était vraiment motivée par la solidarité. C'était ce qui les motivait le plus, avec l'idée, comme le disait Audi Lassmann, de ne laisser personne sur le bord du chemin. Alors au départ, l'équipe s'est beaucoup intéressée aux SDF, aux personnes qui sortaient de prison, aux personnes qui étaient exclues de leur famille, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, en 86, il n'y avait pas de RMI, il n'y avait pas, donc la situation était encore plus terrible qu'aujourd'hui dans certains domaines. Et on a continué donc ce travail pendant 40 ans, et on se renouvelle, on s'adapte aussi aux nouvelles situations. Et comme je vous le disais, on essaie donc d'ouvrir cette solidarité à plein d'activités, parce qu'on ne veut pas servir qu'à donner à manger. Voilà, la vie, elle est beaucoup plus complexe. Et il faut que les gens puissent avoir la possibilité de voir des spectacles, de voir de belles choses, de voir des peintures. Victor Hugo disait que quand il parle, c'est dans Les Misérables, c'est l'évêque qui héberge Jean Valjean, qui dit quelquefois que ce qui est moins utile est parfois plus utile que le nécessaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Que quelquefois le futile est plus utile que le manger.
Que l'essentiel,
voilà, tout à fait.
Alors, cette inauguration dans le square, c'est samedi prochain, c'était hier le...
À 11h.
Et c'est ouvert à tous?
Ah oui, bien sûr, tout le monde est invité. La municipalité a lancé des invitations très larges. Nous avons convoqué nos adhérents, nos bénévoles, les accueillis aussi.
Le dévoilement d'une plaque, j'imagine.
Tout à fait, avec des petits discours de la famille, de monsieur le maire et de moi-même.
Alors, parlons maintenant des activités en dehors. Vous sortez des locaux de Table Ouverte. Mm-hmm. Vous êtes allé pour le festival de la biographie, faire
une déambulation.
Ouais. Au boulevard Gambetta aussi. Vous avez d'autres projets ?
Alors, c'est vrai qu'on essaye, voilà, puisqu'on rayonne sur trois quartiers politiques de la ville, hein, les quartiers rue de Beaucaire, les quartiers rue d'Arles et les quartiers Gambetta-Richelieu. Donc on essaie d'organiser dans ces trois quartiers donc des activités ouvertes à tous. Hein. Alors l'été, nous faisons du cinéma plein air. Alors, depuis 2 ans, là, nous étions cantonnés au Mont du Plan. Là, cette année, on va s'ouvrir, donc on va aller sur le quartier Gambetta, ouais. dans le parc de Saint-Linel, vous savez, le petit parc qui est là-haut. Là. On va faire également une séance de cinéma rue de Beaucaire avec le comité de quartier.
En plein air.
En plein air, oui. On va en faire une aussi vers la route d'Arles. Voilà, on essaye donc de faire profiter.
Alors ça s'adresse à tous ?
C'est ouvert à tout le monde.
C'est pour connaître encore plus la table ouverte ?
C'est surtout pour passer une bonne soirée.
Bonne soirée aussi, ouais.
Regarder des films tout public qui sont des films sympathiques, des films connus qu'on aime revoir, quoi, voilà. On prépare aussi la fête de quartier, donc ça fait maintenant la troisième édition, qui va se dérouler sur 3 jours. On est en discussion aussi pour faire un carnaval dans le quartier Richelieu. On a également
ça, c'est dans les 6 prochains mois, c'est ça ? Non ?
Sur toute l'année. Bon, alors après, l'invité du Sénégal, nos invités du Sénégal, on a prévu donc... avec l'association Africa Liberté, un défilé de mode. On a prévu également des spectacles sur la base du Sénégal. On est en contact actuellement avec des groupes africains qui pourraient se produire. Voilà. Donc on n'arrête pas.
Une belle palette. Hein. Bon, mais maintenant, le temps est venu de nous quitter puisqu'on arrive à l'issue de cette émission. Bah, merci, Monsieur Pietro, puis bon courage dans vos aventures.
Parce que là, vous avez... on a de la ressource encore.
Vous avez de la ressource, oui. Comme la ressourcerie, c'est ça ?
C'est ça. Bah, merci à vous, en tout cas. C'était un bon moment.